L'Esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'Esprit public, au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, essayiste, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Thierry Pech, directeur général de la Fondation Terra Nova, et avec Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nous commencerons par nous intéresser à la situation de François Hollande. Le chef de l'État a accordé un long entretien à l'Obs du 13 octobre et, interrogé sur son bilan, il s'est réaffirmé comme un homme de gauche à l'origine de la création de 60 000 postes dans l'éducation nationale, d'une réduction des inégalités fiscales et de l'accord sur le climat de la COP21. S'il a exprimé des regrets quant à la tournure des débats consécutifs au projet de constitutionnalisation de la déchéance de nationalité, il s'est félicité de l'adoption de la loi dite loi travail, qu'il a présentée comme un facteur de progrès social, et il s'est dit prêt à faire l'inventaire de ses 60 engagements de campagne. Le 13 octobre a également vu la parution du livre « Un président ne devrait pas dire ça », basé sur 61 entretiens accordés par François Hollande aux journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, entre avril 2012 et juillet 2016. Le président de la République, qui décrit la magistrature comme une institution de lâcheté, affirme qu'il y a trop d'immigration qui ne devrait pas être là, décrit comme problématique le fait que l'islam veuille s'affirmer comme une religion dans la République, évoque des ordres d'exécution ciblés de terroristes et appelle à un acte de liquidation du Parti socialiste. La publication de ce livre a provoqué une vague de réactions négatives dans la sphère politique, de gauche comme de droite, et dans la plupart des médias. Le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, a fait part d'un grand besoin d'explications pour comprendre si François Hollande veut vraiment être candidat. Et le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, décrit dans l'ouvrage comme faisant le métier sans enthousiasme excessif, a affirmé que tout était dans le titre du livre. Interrogé depuis Montréal où il était en déplacement, le Premier ministre Manuel Valls a appelé tout le monde à se ressaisir et à prendre de la hauteur. Cette polémique visant le chef de l'État intervient alors que les primaires pour la désignation du champion socialiste à l'élection présidentielle auront lieu à la fin janvier. Le candidat Arnaud Montebourg s'est désolé d'une activité présidentielle extrêmement journalistique. L'ancien ministre de l'Économie Emmanuel Macron a évoqué son projet d'inventer une nouvelle forme d'autorité démocratique et qualifié le quinquennat de François Hollande de « présidence de l'anecdote, de l'événement et de la réaction ». Selon un sondage IFOP publié le 16 octobre par le journal du dimanche, 85% des sondés ne souhaitent pas voir François Hollande se présenter à sa propre succession. Sur cette question, Thierry Pech.
Je crois que c'est Jacques Julliard qui a eu ce mot. Il a dit « peu d'hommes politiques ont eu autant de chance avant leur élection et si peu après ». Et en effet, François Hollande, c'est un peu le président patatras. Il fait un grand entretien dans l'Obs, qui est d'ailleurs intéressant, où enfin on cesse de parler du bilan en général et de loin, et on commence à l'instruire, à essayer d'en dégager des lignes de force, une cohérence, même si bien sûr tout ça prête à discussion. Et puis, voilà, badaboum, patatras, quelques heures plus tard... 24 heures plus tard, 48 heures plus tard, sort le bouquin de Davet et Lhomme que vous avez cité. Je m'empresse de dire que je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas si un président ne devrait pas dire ça, mais je sais qu'un président ne devrait pas se confier comme ça, et ne devrait pas se confier comme ça à des journalistes d'investigation comme Davet et Lhomme. Et donc le bilan de tout ça est évidemment qu'on a immédiatement cessé de parler de ce dont on devrait parler, c'est-à-dire du bilan de ce quinquennat, de ce qui a été fait, pas fait, bien fait, mal fait, etc. Et on en revient aux petites phrases désagréables dont personne ne sait dans quel contexte exactement elles ont été prononcées. Tout ça, bien sûr, n'a pas été relu. Parler, écrire, c'est pas pareil. Enfin bon, bref. La fonction est atteinte, naturellement, et on n'est pas dans le degré de vulgarité et de ridicule qui avait pu être celui de Sarkozy, du « casse-toi pauvre con » et tous ces épisodes désagréables ou des peaux de léopard de Kadhafi dans les jardins de la République, mais tout ça n'est pas brillant. Alors, la situation de François Hollande ne se résume pas, bien sûr, à cet épisode autour de ce livre. Elle était déjà difficile, elle est encore plus difficile aujourd'hui. Ce que lui promettent les sondages, c'est quoi? S'il y va, s'il est candidat, c'est une courte victoire aux primaires de la gauche et une probable troisième place au premier tour de l'élection présidentielle, sinon une quatrième place, parce que Mélenchon pourrait très bien monter un peu et dépasser le président compte tenu de son étiage de popularité actuel. Donc c'est très compliqué. Est-ce qu'il y aura candidature ou pas? La question se pose, elle ne se posait pas en réalité il y a quelques mois, tout le monde pensait qu'il irait. Aujourd'hui, elle se pose, y compris dans des cercles assez proches, je crois, de lui, ou en tout cas de ce qu'il incarne. Il a suspendu sa candidature à la fameuse courbe du chômage. Bon, on va bien sûr la regarder de très près. La vérité, c'est que le chômage diminue, mais très lentement. On est encore dans une espèce de langueur économique. Donc, ça va mieux, oui, ça va un peu mieux, mais ça va pas franchement mieux. Donc, je vois Jean-Louis qui a l'air d'exprimer un doute, et probablement il l'explicitera tout à l'heure. Mais effectivement, les indicateurs économiques sont meilleurs qu'il y a un an. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est pas encore très brillant. Donc le chômage recule un peu, mais il y aura guère que quelques esprits bienveillants pour reconnaître là un succès ou un demi-succès, et les esprits bienveillants ne seront pas très nombreux. Je crois que la question qui se pose désormais, c'est qu'est-ce qui va se passer? Soit il y va, et la question de la primaire va être avec ou sans lui. Ça va être ça le débat de la primaire de la gauche. Il y aura un cœur d'opposants qui feront le procès du quinquennat, qui probablement ne seront d'ailleurs pas très populaires sur ce registre, parce qu'ils n'iront jamais assez loin et jamais aussi loin que Mélenchon en particulier. Et en face d'eux, un François Hollande qui dira « je suis le moindre mal, je suis la moins mauvaise solution pour vous ». Et probablement il gagnera sur cet argument, qui est un argument assez faible. S'il n'y va pas, alors là, la situation est différente parce que la primaire ne s'organisera pas autour de cette question avec ou sans lui. Elle s'organisera autour de la question de la ligne politique. Et donc, elle sera l'acte 1 de la recomposition de la gauche. Et on verra s'y affronter des tempéraments et des lignes politiques vraiment différentes. Manuel Valls, qui a clairement dit qu'il était prêt à la minute, hein, je crois que c'était l'expression qu'il a utilisée, à y aller. Arnaud Montebourg sur un registre plus colbertiste. Benoît Hamon dans un registre plus à gauche, mais peut-être moins dur avec le bilan du président. Je passe sur Philoche, Lindemann, qui seront également de cette partie. Et peut-être à ce moment-là, la question de la participation d'Emmanuel Macron à cette primaire pourra se poser, parce qu'il serait curieux que la bataille pour le leadership du progressisme se joue sans lui.
Michaël Avigal.
Oui, alors j'aimerais revenir quand même à cette affaire du livre, parce que je pense tout d'abord ce livre pose la question de la protection de la fonction présidentielle. Moi, je trouve ça assez curieux qu'il n'y a personne à l'Élysée qui puisse dire au président, Monsieur le Président, ça ne va pas. Vous pouvez vouloir être le propre chroniqueur de votre mandat, mais il n'est pas envisageable que vous vous confiez sans exercer aucun contrôle sur vos conversations à des journalistes qui ont en quelque sorte carte blanche. Parce que ce livre, alors moi j'ai eu le malheur de le lire, est quand même très problématique sur la méthode. C'est-à-dire, de temps en temps, il est fait mention des dates des entretiens, mais il n'est jamais clair à quel moment il s'agit d'une affirmation des phrases entières ou pas, qui sont reproduits dans des guillemets, donc pour vraiment indiquer au lecteur ça, c'est une véritable citation. Il y a des curiosités. Angela Merkel est en permanence citée comme Vladimir Poutine en direct, alors que les auteurs n'ont jamais parlé avec eux. C'est quand même très étrange, notamment sur l'affaire grecque, d'avoir des citations de Vladimir Vladimir Poutine rapportait, selon les auteurs, alors on est là dans une, on peut plus rien contrôler, rapporté par François Hollande, donc reconstitué par François Hollande. Alors, ceci dit sur la méthode, et je trouve ça pose vraiment une question de déontologie journalistique aussi, les auteurs se placent en permanence dans la tête de François Hollande, mais on ne sait pas quelle est l'interprétation donnée par les auteurs et quelle est vraiment, qu'est-ce qui correspond vraiment au verbatim de François Hollande. Et qu'il n'y a pas eu, même après l'affaire Jean-Pierre Jouyet, qui était déjà un dommage collatéral de tous ces entretiens, qu'il n'y a eu personne à l'Élysée pour dire, Monsieur le Président, il faut qu'on arrête. Ça ne peut qu'endommager la fonction parce que d'une certaine façon, le Président, la personne ne s'appartient plus à partir du moment où il est Président de la République. Alors, je voudrais m'arrêter très brièvement à deux aspects, à mon avis, néfastes sur le plan plus large de la politique européenne parce qu'il y a deux chapitres assez longs d'ailleurs consacrés au rôle européen de François Hollande. Alors, on sait tout que reproche lui était fait, notamment à gauche, qu'il n'a pas tenu sa promesse de réorienter l'Europe. Alors, au lieu de donner en quelque sorte les raisons pourquoi il n'a pas pu faire ce qu'il pensait pouvoir faire pendant la campagne électorale sur le plan européen, il se présente en permanence à travers les auteurs. Donc, encore une fois, moi, je ne sais pas si ça correspond vraiment à sa pensée, mais c'est en tous les cas ainsi qu'il le présente, comme celui qui a rusé avec tout le monde. Il était le plus rusé de tout le monde. Donc, il était d'ailleurs, un de ses conseillers le dit dans le livre, encore une fois, on ne sait pas si les auteurs en parlaient avec ce conseiller, mais en tout cas, il dit... Il est beaucoup plus fort qu'Angela Merkel parce que lui, il a tout de suite compris, il donnerait juste sa signature, mais après, il respectera aucun de ses engagements. Et c'est ce qui est déroulé dans ce... Donc, il met en porte-à-faux la Commission européenne qui, soi-disant, aurait toujours dit « mais il faut prétendre que vous remplissez, que vous vous engagez sur les 3%, mais en vérité, c'était notre deal. » Il laisse entendre ça, que finalement, on ne respectera rien. Et à mon avis... C'est néfaste parce que de présenter comme une stratégie réussie le non-respect des engagements pris et comme finalement une sorte de promesse tenue vis-à-vis du peuple de gauche qui attendait une réorientation de l'Europe sur le plan de la politique de croissance, c'est quand même assez curieux. Et c'est la même chose sur la crise grecque où on sait très bien comment elle s'est soldée jusqu'à maintenant, c'est-à-dire Tsipras a dû accepter des conditions extrêmement rigoureuses. Alors, dans le livre, François Hollande se présente comme le grand frère d'Alexis Tsipras. Il omet toutes les arrangements avec la vérité, c'est-à-dire que la France avait bien sûr aussi travaillé sur un plan de sortie de la Grèce, puisque il fallait le faire à partir du moment où on savait plus si les Grecs voulaient rester. Et donc tout ce volet-là n'est pas mentionné. En revanche, et il est dit d'ailleurs, moi, j'ai tout intérêt à me présenter comme le grand frère de Tsipras parce que ça embête bien Mélenchon qui voudrait avoir cette place. Alors, on a l'impression que du coup, la politique européenne de la France, elle se résume à un petit jeu avec la gauche de la gauche. Et ça, c'est assez terrifiant qu'il n'ait pas essayé de démentir ce qui est écrit.
François Bujon de l'État.
J'ai pas grand-chose d'original à dire sur ce dernier épisode du livre de messieurs Davet et L'Homme et des révélations qu'elles contiennent. Je suis évidemment, comme beaucoup d'autres, tout à fait consterné par beaucoup d'aspects des propos présidentiels, mais je m'interroge sur la démarche qui a amené le président à laisser se construire ce livre, au fond, au fil de plus de 60 entretiens étalés sur plusieurs années. C'est une démarche qui est tout à fait singulière en termes de comportement présidentiel, puisque il semble que le président n'ait pas du tout vu à aucun moment de cette démarche tout ce que la publication de propos tenus comme ça en privé pouvait avoir de dommageable pour lui-même. Et en réalité, on sait pourtant que quand des propos présidentiels qui n'étaient pas faits pour publication sont publiés à la suite de telle ou telle circonstance fortuite, très très souvent, ça entraîne un cataclysme. Il n'y a pas beaucoup de parallèles à faire entre cette affaire d'Avey, l'homme et d'autres. Mais je me souviens, puisque... Pardon ?
Strauss-Kahn, le parallèle est avec Strauss-Kahn.
Non, il y a d'autres. Moi, je vais vous en faire un autre, suicide. Un autre tout à fait différent, qui est avec Monsieur Nixon et la révélation des papiers des Watergate Papers au moment du scandale du Watergate. Finalement, quand les choses commençaient à sortir, que la présidence se défendait mal, que Monsieur Haldeman, Monsieur Ehrlichman révélaient des choses sur Monsieur Nixon, les journalistes accusés d'avoir monté je ne sais quel bateau ont publié finalement des choses, des enregistrements. Et la Maison-Blanche elle-même a été amenée, à la suite de l'intervention du procureur spécial, à publier tous les enregistrements de toutes les conversations du président, puisqu'il avait fait équiper son bureau de tel sport. Et la publication de ses propos privés, conversation entre le président et ses collaborateurs, avait déchaîné un absolu cataclysme, parce que ça révélait une part de la personnalité de M. Nixon qui était particulièrement désagréable et peu présidentielle. Alors j'insiste sur ce dernier mot, parce qu'au fond, le dommage principal de ce livre, c'est celui-là. C'est à l'égard de la fonction présidentielle, comme l'a dit Michaela, et de la parole présidentielle. Ceux qui ont connu d'autres époques, c'est mon cas, j'ai été à la présidence de la République à l'époque du général de Gaulle, personnellement, pendant 3 ans, et je me souviens très bien de la façon dont le général avait théorisé, d'ailleurs, l'usage de la parole présidentielle ou de la parole du chef. Relisez le fil de l'épée qui contient des pages absolument éblouissantes sur le fait que les propos du chef doivent être rares, doivent être calibrés, et que le moment doit en être choisi. Mais l'idée d'inonder de la parole présidentielle l'actualité au fil des semaines, au fil des mois, est totalement à l'opposé. Totalement à l'opposé.
Il est certain qu'on n'imagine pas le général de Gaulle devenant un tweetos, mais en même temps, la parole du chef dans une période où précisément existe Twitter, où existe Facebook, où existe tout ça, est un peu plus difficile à maîtriser, surtout quand il y a tant de gens qui sont capables de la rapporter ou de l'inventer ou de la rapporter en la découpant soigneusement, etc. Donc j'imagine en effet pour quelqu'un qui, comme vous, a servi sous le général de Gaulle, l'ébahissement devant cette façon de communiquer avec des journalistes, mais en même temps, l'époque a à ce point changé que il y a une autre théorie, me semble-t-il, de la parole du président ou du chef.
Oui, mais je vous répondrai justement, mon cher Philippe, parce que vous avez raison, bien sûr, mais que c'est une raison de plus pour contrôler l'usage de la parole, en sorte qu'elle ne soit pas déformée ou mal utilisée sur les nouveaux moyens de communication dont vous parlez. C'est presque une contrainte supplémentaire ce que vous dites. Du moins, c'est... Alors, je vais simplement, pour une fois, m'effacer derrière la personnalité de M. Macron, parce que j'ai lu avec intérêt une interview qu'il a donnée au magazine Challenge. Une petite citation à ce propos. Macron dit ceci, je le cite, « François Hollande ne croit pas au président jupitérien. Il considère que le président est devenu un émetteur comme un autre dans la sphère politico-médiatique. » Pour ma part, poursuit Macron, je ne crois pas au président normal. Les Français n'attendent pas cela. Au contraire, un tel concept les déstabilise, les insécurise. Je ne suis pas en marche, vous pouvez le constater en voyant que je suis bien assis sur ce siège, mais je trouve ce diagnostic extrêmement juste.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, si on en vient aux citations du général de Gaulle, François Bujon de l'Étang faisait allusion en fait à la phrase du fil de l'épée, l'autorité ne va pas sans mystère, ni le mystère sans éloignement. Je crois que l'épisode auquel nous assistons appelle une autre citation du général de Gaulle, qui est le commentaire de la visite que lui rend le président Albert Lebrun à la Libération en 1944. Il résume l'entretien en disant, en somme, il eût été un chef d'État accompli s'il avait été un chef et s'il y avait eu un État. Au-delà, je me risquerai à nouveau encore une citation en songeant à l'analyse très, très, très judicieuse, très fine, comme toujours, que fait Thierry. Thierry se situe dans un univers normal. Le président est-il normal? On ne sait pas, mais l'univers de Thierry est normal. C'est-à-dire qu'il estime qu'il s'est passé quelque chose, alors que ça modifie à la marge, etc. Moi, je ne crois pas du tout. Je crois qu'il s'est passé quelque chose d'absolument fondamental, d'une rupture absolue entre le pays et le président de la République, et que ça, que peut-être le président de la République ne le sait pas, mais que tout le monde le sait autour de lui, y compris ses lieutenants. Il suffit de voir les propos, d'ailleurs, très fins. Parce que quand on peut être trotskiste et très fin, même c'est recommandé, de Cambadélis, qui a vraiment montré que a pris toutes les distances qu'il fallait. Bartolone, plus sicilien, mais également extrêmement réservé. Donc l'entourage lui-même sait que quelque chose est brisé. Et là, je serais tenté de citer ce que j'ai déjà fait une fois, je crois, la phrase de Tocqueville sur Louis-Philippe. Le roi me faisait penser à cet homme dont la maison brûlait et qui se rassurait en se disant qu'il en avait la clé en poche. Et je pense que la maison brûle. Alors, ça pose deux problèmes. D'abord, un problème psychologique. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, on est en face, je crois, de plusieurs explications possibles. La première, c'est en cela que je faisais allusion à Dominique Strauss-Kahn. Et je pense que Richard Nixon, d'une autre façon, illustre aussi ce propos. Il y a à un moment une pulsion suicidaire. Des hommes font des choses qui s'enchaînent de telle manière que ça conduit effectivement au désastre. Je ne sais pas pourquoi Strauss-Kahn s'est fait prendre dans cet hôtel, dans ces conditions, mais je pense qu'il y avait quelque part une certaine tentation de l'échec. Du scandale qui lui épargnerait ce calice, car je crois qu'il n'était pas fondamentalement, à la différence de son épouse, fait pour ce poste. Là, est-ce qu'il y a une tentation suicidaire? Je ne crois pas dans le cas de Hollande. La seconde tentation, c'est celle du narcissisme. Alors, c'est troublant, parce que Camus disait qu'il fallait imaginer Sisyphe heureux. Là, il faut imaginer Narcisse en peau à tabac. Donc, c'est assez difficile de croire qu'il a les qualités requises de Narcisse. Donc, on attendait l'homme normal, l'homme moyen, etc. Ben non. Il a de lui-même une idée qui le place absolument, comme dirait le général de Gaulle à nouveau, hors de toutes les séries. Et au-delà de ça, je pense que la véritable explication, c'est une remarquable outrecuidance. Une surestimation absolue de ses forces. Il croit véritablement que la moindre mise en scène de ce qu'il y a de pire en lui est en soi quelque chose de tellement gratifiant pour le peuple français que celui-ci s'en sera émerveillé. Alors on montre, c'était très sensible dans le film qui avait été organisé par M. Ganzer, où il parlait de façon extrêmement...
Je crois qu'il avait été organisé par Ganzer, oui. Parce que je connais assez Yves Jelan, qui est le documentariste, pour souligner qu'il n'est pas du genre à se laisser organiser, d'ailleurs, le résultat.
Non, mais il ne s'est pas laissé organiser, mais je ne dis pas qu'il a organisé, enfin je me suis mal exprimé, je ne dis pas qu'il a organisé le film, mais il a organisé l'opération, sans voir qu'effectivement cette opération serait absolument catastrophique, parce que se moquer du ministre de la Culture en disant « elle va au Pestac et tu dis que c'est bien », etc. Enfin, des tas de formules qui étaient terrifiantes quand on les entendait. Et là, quand on voit ce brave soldat, plein de talent d'ailleurs, à sa manière, de Najat Vallaud-Belkacem, qui se bat pour défendre idéologiquement, et tout ce qu'on a dans le bouquin, c'est « elle est forte en langue de bois », c'est-à-dire qu'il casse complètement son instrument. Enfin, c'est quelque chose... C'est vraiment un anti-alchimiste. On lui donne de l'or, il en fait du plomb. Alors, psychologiquement, donc je crois qu'il s'est passé quelque chose. Alors, sur les conséquences, moi, on va pas les développer considérablement, mais je pense qu'il faut imaginer un monde sans une France et un parti socialiste sans François Hollande. Alors, je ne crois pas du tout à l'hypothèse de Macron rejoignant les primaires. Je crois que ça aurait été possible, mais c'est trop tard. Il a pris toutes ses distances et il perdrait. Maintenant, sur le vrai risque, c'est le risque d'unité du Parti socialiste. Cambadélis avait un projet qui était de réussir avec François Hollande une candidature d'échec. Il savait qu'Hollande ne serait pas réélu, mais il voulait que ce soit une candidature qui ait de l'allure et qui maintienne l'unité du parti. Ce plan a échoué et maintenant on risque d'avoir un affrontement très fort entre la gauche de la gauche et un parti libéral. Et Valls, là-dedans, n'est pas si bien placé que ça, après l'affaire El Khomri et après l'affaire de la déchéance.
Thierry Pêche.
Alors, l'autorité ne va pas sans mystère. Vous avez témoigner toute la révérence dont vous êtes capable à l'égard du général et qu'il la méritait bien. Mais il me semble que c'est inspiré. Il me semble que c'est inspiré par un souvenir de la Boétie. La Boétie dit à peu près ça dans le contrat, dans le discours de la servitude volontaire, dans des mots qui sont très proches. Il parle même du mystère du pouvoir de cette même façon, en disant qu'il faut qu'il s'absente pour s'imposer à la foule. Bon. Mais le général de Gaulle avait de la culture et donc quelques réminiscences. Est-ce qu'il y a de la pulsion suicidaire chez François Hollande? Moi, j'en sais rien, je ne suis pas psychanalyste, mais... comme chez Dominique Strauss-Kahn, ça, sur ce point je pourrais vous rejoindre, il y a chez ces gens un goût pour aventurer leur vie dans des périls qui laisse penser que s'ils ne le désirent pas, en tout cas, ils ne redoutent pas assez le danger pour l'éviter.
Ils courtisent le risque.
Oui, ils tangentent. Bon, ils ont pris une chambre à l'hôtel du bord de l'abîme, avais-je dit à propos d'autres situations. Donc, et ça, c'est quelque chose qui moi me laisse sans voix, quoi. Pourquoi aller si proche du gouffre quel bénéfice y a-t-il à ça? La maison brûle, dites-vous, Jean-Louis. Oui, la maison brûle. Alors, je suis pas sûr que je considère que les temps soient tout à fait normaux. Je pense qu'au-delà de l'épisode du bouquin, tout ce qu'on en dit traduit le fait que nous vivons une époque qui n'est absolument pas normale. Alors là, pour le coup, je crois que c'est ça, c'est sur ce point qu'il faut insister. François Hollande prend le pouvoir dans une crise de la zone euro qui est pas une crise passagère, qui est une crise structurelle sur le projet européen, qui d'ailleurs va en montrer... les faiblesses, lesquelles vont se développer ultérieurement dans d'autres crises. Ce quinquennat, ces cinq années auront été marquées par un effondrement des certitudes sur lesquelles nous avions construit la politique sur ce continent dans presque tous les domaines. La monnaie commune, Schengen, la libre circulation en Europe, la montée des populismes partout, partout. Le quinquennat de François Hollande aura été marqué par ça, pas de son fait, hein, mais par cette circonstance tout à fait exceptionnelle d'un effondrement des structures sur lesquelles nous avions vécu.
Michel Avig.
Oui, alors je m'interroge encore sur les dommages durables justement que engendra ce livre au plan européen, parce que pour l'Allemagne, on peut dire que ce qui s'est insinué tout le long du mandat de François Hollande, avec toutes ces annonces d'un plan, d'un projet commun qui se préparait et qui n'était jamais mené à bout, il y avait déjà le doute que finalement, au fond de lui-même, il voulait pas. Il voulait pas vraiment une relation confiante avec l'Allemagne. Et la confirmation, et si ce n'est pas démenti, est vraiment dans ce livre. C'est-à-dire que, justement, cet aspect un peu narcissique de dire, de toute façon, je suis plus fort que tout le monde, et notamment qu'Angela Merkel, qui a fait des erreurs, hein. Moi, je suis, bien sûr, elle n'a pas tout bon, hein, dans le bilan.
Elle est normale.
mais ce manque de sérieusement et véritablement construire quelque chose de durable qui ne peut qu'être basé sur la confiance, ça en ressort. Et je pense, alors que le doute est déjà instauré à cause de tous les accommodements qu'on a dû accorder à la France sur les règles communes, je pense le prochain président, de toute façon, il va avoir fort à faire à remonter ce déficit de confiance.
Je vous remercie. Je vous propose que nous changions de sujet et que nous nous intéressions à ce qui se passe et même à ce qui ne se passe pas en Espagne. Aux élections au Cortés de décembre 2015, donc les élections au Congrès des députés et du Sénat, en dehors, hors les communautés autonomes, à ces élections de décembre 2015, la formation arrivée en tête, le Parti populaire, n'a pas obtenu la majorité absolue. Son chef, Mariano Rajoy, a donc exercé les fonctions de président de gouvernement pendant 10 mois, sans avoir obtenu la confiance du Parlement. Ces élections de 2015 se sont caractérisées par la remise en cause du bipartisme propre à l'Espagne depuis la transition démocratique. Moins de 200 jours après ces élections, les nouvelles élections générales qui se sont tenues en juin 2016 ont un peu redressé cette tendance, tandis que les nouveaux partis, Podemos à l'extrême gauche et la formation libérale Ciudadanos, ne confirmaient pas leurs résultats encourageants du précédent scrutin. pas plus que pour celle de la fin 2015, les élections de juin 2016 n'ont donc vu émerger de majorité absolue, les tentatives successives de formation d'un gouvernement de coalition ont toutes échoué. Une offre d'alliance entre la gauche, le centre et la droite proposée par Rajoy fin janvier a été rejetée par le chef du Parti Socialiste, le PSOE, Pedro Sanchez. Début mars, le même PSOE et le parti centriste Ciudadanos n'ont pas obtenu le soutien indispensable de Podemos pour former une majorité. Le 8 septembre, Mariano Rajoy a échoué à rassembler la majorité simple des députés. Les troisièmes élections générales depuis décembre 2015 seront convoquées si aucun accord n'est trouvé avant le 31 octobre. Le 25 septembre, suite au score excessivement bas du PSOE aux élections au Pays Basque et en Galice, Pedro Sanchez a convoqué un congrès fédéral devant lequel il a remis son mandat en jeu. Faute d'appui suffisant, il a dû démissionner. Son parti, compromis dans plusieurs scandales de corruption, est passé d'un score de 46% en 2008 à 22% en 2015. Et cependant, la défaite de Pedro Sanchez est aussi la défaite de la ligne du refus de tout soutien direct ou indirect au Partido Popular de Mariano Rajoy, qui aurait permis de former un gouvernement. Si le PSOE s'abstient lors du vote de confiance plutôt que de voter contre, une majorité absolue pourrait être constituée. Je pense qu'il faut, avec les problèmes constitutionnels espagnols, distribuer du Doliprane, mais Jean-Louis Bourlange, sur cette question, va sans aucun doute nous éclairer.
Oui, alors, cher Philippe, je dois rendre hommage à votre extrême lucidité, parce que vous avez un instinct génial de la programmation de ces sujets, car nous abordons celui-ci un peu tard par rapport au PSOE, à la crise du PSOE qui s'est manifestée il y a quelques jours, mais juste avant pour prendre les risques maximum en matière de prévision, puisque toute cette crise va se régler la semaine prochaine.
Et je crois que cette émission est aussi à l'hôtel mais du je bord crois
que
de la maison.
J'allais le dire et je pense que c'est très bien parce que, en vérité, ce grand psychodrame va se dénouer en deux temps. Dimanche prochain, quand le PSOE va décider ou non de s'abstenir, puisque vous savez que le principe est simple, le président désigné par le président du gouvernement désigné par le roi doit avoir la majorité absolue au Cortés au premier tour, et s'il ne l'obtient pas, il doit avoir la majorité relative, simplement, au second tour. Il est exclu que M. Rajoy ait la majorité absolue au premier tour, mais si les socialistes s'abstiennent, il a la majorité relative au second tour, et la crise se dénoue, le gouvernement est constitué, il est difficile à remettre en cause, car les Espagnols ont un système un peu comparable à celui des Allemands en matière de défiance constructive, et donc il est solidement en place. Si en revanche, alors nos amis, notamment notre ami Benoît Pélistrandi, qui est venu à ce micro de temps en temps, et qui est vraiment le grand spécialiste français de ces questions, pense plutôt, mais il se garde bien d'avoir un pronostic, c'est pour ça que c'est un expert, il se garde bien de s'engager tout entier d'un côté, pense plutôt que le Parti Socialiste votera laissera passer Rajoy. S'il ne le passe pas, alors là, nouvel épisode de crise, puisque le délai va être atteint, le roi va dissoudre les Cortés et on aura des élections. Le seul accord qu'ils aient réussi à obtenir entre eux, c'est qu'on ne vote pas le jour de Noël comme les délais constitutionnels le prévoyaient, mais une semaine avant, le 18 décembre, si on doit revoter. Et là, on pourra refaire une émission sur l'Espagne autour du 18 décembre. Je vous le signale pour vos travaux de programmation, mon cher Philippe.
Bon. Trop aimable.
Donc, on est dans cette situation et je crois effectivement qu'il est probable, sans que ce soit du tout sûr, qu'on en sorte. Mais on n'en sort pas en réalité, car ce qui émerge de tout cela, c'est une crise absolument fondamentale et nous avons un champ de ruines. Et d'abord, un champ de ruines au sein du parti, pas seulement, je commencerai plutôt par le Parti Socialiste, mais même le Parti Populaire est quand même dans un état absolument lamentable. Tout ça tient, parce que Rajoy a un pouvoir absolu, le système de pouvoir au sein du PP est inadmissible. C'est Rajoy lui-même, le chef lui-même, on a bien la tradition Caudillo, là on voit bien la tradition franquiste qui demeure à travers Fraga et d'autres. C'est lui qui donne toutes les investitures, individuellement, seuls. Donc tous les députés sont comme un banc de poissons, ils obéissent, ils vont d'un côté ou de l'autre selon que le chef le leur demande. Donc il y a cette... Et puis alors en plus, Rajoy est une personnalité étrange, qui ne parle pas, qui n'a aucun charisme, et il reproduit l'idée classique qu'on se fait du Galicien, on dit qu'il est de Galice, comme Franco d'ailleurs, on dit à un Galicien que quand on le croise dans l'escalier, on ne sait jamais s'il le monte ou s'il le descend. Donc on a une personnalité quand même assez incertaine. Mais au sein du Parti Socialiste, on a évidemment une situation dramatique, parce que on s'aperçoit que, bon, que s'est-il passé? Monsieur Sanchez a été éliminé, a été choisi d'abord, en fait, par un certain nombre de gens, par Madame Diaz, la présidente d'Andalousie, qui ne voulait pas y aller à l'époque, par Felipe González, et il les a, non pas trahis, je ne dirais pas, mais il leur a manqué. Et notamment, il avait promis à Felipe González de s'abstenir dans le dernier scrutin pour faire passer Rajoy. C'est la colère de Felipe González qui a provoqué, en partie, avec la révolte des grands barons de Catalogne et de Madrid et de Valencia, qui a provoqué la chute de Sanchez. Mais Madame Diaz, qui était la personnalité montante, Susana Diaz, la présidente d'Andalousie, qui était la personnalité alternative montante, elle a du mal. Et il semble bien qu'elle se heurte à d'extrêmes difficultés. Donc pour l'instant, ils ont mis une sorte d'Alain Poher espagnol qui préside tout ça, mais ils ont vraiment un vrai problème de leadership. Par-dessus tout, et c'est là le grand problème, les gens de Catalogne, les socialistes de Catalogne, ont dit qu'ils ne voteraient pas. Et les gens qui ne s'abstiendraient pas, qui feraient tomber le gouvernement, et là, on rentre dans une crise extrêmement grave, qui est la crise nationale. Alors, je voudrais conclure en disant, en réalité, le problème espagnol, c'est qu'il cumule trois crises. D'abord, contrairement à ce que disait, ironiquement, d'ailleurs, Alain René, la guerre n'est pas finie. C'est-à-dire que les rapports entre le PP, la guerre civile bien sûr, le PP et le PSOE n'ont jamais été corrects. Alors, ils sont d'accord sur le fond, mais ils n'ont jamais eu... Alors ils doivent s'entendre alors qu'ils n'ont absolument aucune forme de convivialité, de rapport ensemble. Donc c'est quelque chose de totalement paradoxal. Deuxièmement, il y a la crise traditionnelle que nous retrouvons en France, partout, sur l'euro, sur la gestion de la politique économique, les indignés contre les sociaux-libéraux, contre les sociaux-démocrates. Elle traverse et elle explique la concurrence victorieuse de Podemos par rapport à un PSOE en effondrement. Et troisièmement, il y a ce problème national, donc le problème catalan, qui devient terrifiant. La décision qui a été prise par le tribunal constitutionnel disant que l'interdiction de la corrida relevait exclusivement de Madrid, du pouvoir central et pas de la Catalogne, c'est une crise profonde. Le référendum de Catalogne va être repris dans quelques mois. Tout ça crée une tension absolument prodigieuse et le PSOE est au cœur de ça. Donc trois crises sur ce malheureux pays qui a en plus de grandes difficultés économiques et l'Europe au milieu de tout ça qui dit si vous réduisiez vos déficits budgétaires, ce qui paraît quand même assez surréaliste.
Michaela Wiegel.
Oui, après cette brillante analyse de Jean-Louis Bollange, j'ai que très peu de choses à rajouter, mais justement cet aspect européen de cette crise, parce qu'on est quand même de cette triple crise, on est quand même dans une période où on aurait besoin de l'Espagne pour justement gérer les négociations sur le Brexit. Et effectivement, l'aspect du dérapage du budget espagnol paraît assez dérisoire par rapport aux autres questions qui doivent être réglées par les 27 restants en Europe. Alors, il y a quand même un mot à dire sur justement la nouvelle attitude de la Commission européenne. Je dirais que Jean-Claude Juncker a très élégamment réussi jusqu'à maintenant. On verra si ça continue comme ça, mais de faire en sorte qu'il n'y a pas vraiment d'affrontement avec ce gouvernement en sursis à Madrid sur ces questions financières. Et je pense que c'est une excellente idée de ne pas rajouter encore une véritable crise européenne au problème de politique intérieure qui existe déjà en Espagne. Alors la question, c'est effectivement, et là on est dans l'incertitude, combien de temps ce cessez-le-feu en quelque sorte va-t-il durer, puisque on a vu que la Belgique, je sais plus combien de mois, elle était gouvernée
plus de 500 jours, je crois.
Oui, gouvernée par un gouvernement des affaires, et donc on a vu que ça pouvait quand même engendrer malgré tout des grandes défaillances dans puisque beaucoup de questions essentielles sont reportées. Et donc, ça va être vraiment cette sortie de crise, il va falloir l'observer de très très près en Espagne.
François Bujon de l'Étang.
Oui, vous avez raison, il y a des précédents, il y a des pays qui n'ont pas de gouvernement et qui tournent toujours. Le cas belge était parfaitement intéressant. D'ailleurs, l'Espagne, c'est pas vrai de dire qu'elle n'a pas de gouvernement. Elle a un gouvernement qui expédie les affaires courantes, en réalité. C'est le cas, mais elle est quasiment paralysée depuis décembre 2015. Alors, si on se souvient un petit peu de l'atmosphère au moment de décembre 2015, ce qui s'était passé en Espagne avait été salué en Europe par toutes sortes d'analyses intéressantes, en disant « Ah mais voilà, il y a une redistribution des cartes complètes sur le tableau politique espagnol, c'est la fin du bipartisme qui a dominé l'Espagne démocratique depuis son avènement, Podemos, Ciudadanos sont sortis, voilà des nouveaux partis qui vont bousculer ce paysage un peu traditionnel ». C'était une analyse un peu naïve au fond, parce qu'il ne suffit pas de bousculer les deux partis qui ont fait le bipartisme pendant des années pour créer immédiatement une nouvelle donne qui soit praticable au fond. La fragmentation du paysage politique qui en est résultée, avec un jeu à quatre partis au lieu de deux, donne une stérilité complète et une incapacité à construire des alliances et à se mettre d'accord. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut méditer, parce que ça peut s'appliquer à d'autres pays européens qui connaissent des situations un petit peu similaires. Alors, je crois que Jean-Louis a très bien analysé la crise espagnole en disant qu'elle était multiforme, qu'elle se situait sur plusieurs niveaux. C'est vrai, il y a une crise économique qui continue, et on le voit bien avec le problème de nouveau du ratio entre le déficit budgétaire et le PIB. Il y a une crise politique qui donne cette absence de solution immédiate et à la constitution d'un gouvernement. Et il y a une crise nationale que l'on voit bien avec la Catalogne et avec d'autres provinces espagnoles, d'ailleurs, qui sont difficiles, comme le Pays Basque. Ce que je trouve très intéressant à cet égard, c'est que les élections régionales, par exemple, qui ont eu lieu en Galice et au Pays Basque, ont eu une influence importante aussi sur l'équation nationale. Elles ont eu lieu ces dernières semaines et on espérait peut-être qu'elles allaient aider à la solution de l'équation. Ça n'a pas été le cas, mais elles ont renforcé le Parti populaire et elles ont enregistré le déclin continu du PSOE. Donc on a un jeu très compliqué en Espagne qui se situe sur plusieurs niveaux, le niveau national et le niveau régional, et qui rend encore plus difficile la solution de cette crise, en effet, multiforme et sur plusieurs niveaux. Alors, il faut s'interroger sur un point. Est-ce que ce cas espagnol est complètement spécifique? Est-ce que c'est une idiosyncrasie espagnole? Ou est-ce qu'il s'intègre dans le paysage européen actuel, finalement? En est-il représentatif d'une façon ou d'une autre? Et il l'est dans une certaine mesure, parce que les phénomènes auxquels on assiste en Espagne se retrouvent au-delà des Pyrénées et dans d'autres pays européens. L'usure des partis de gouvernement, la montée du populisme en Espagne avec Podemos, la fragmentation du paysage politique, tout ceci est assez familier, on le retrouve et on le retrouve même chez nous. Et la menace à l'unité nationale avec le problème catalan, on le retrouve également dans le Royaume-Uni post-Brexit, qui se retrouve lui aussi avec le problème espagnol et le problème irlandais. Il y a donc un aspect strictement espagnol, mais il y a quelque chose de révélateur de problèmes européens d'une façon générale.
Thierry Pêche.
Bon, il y a manifestement des problèmes qu'une absence de solution ne permet pas de résoudre. Contrairement à ce que pensait M. Coy, que cite souvent Jean-Louis Bourlange à ce micro. Ça va faire bientôt un an. puisque l'Espagne n'a pas de gouvernement, ce qui a tout de même des conséquences, parce que on en avait beaucoup plaisanté au sujet du cas belge, puisque je crois que les Belges avaient même participé à une opération militaire internationale, et on avait dit, bah, si on peut faire la guerre sans gouvernement, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, et du coup, pourquoi avons-nous besoin d'un gouvernement? Eh bien, par exemple, on a besoin d'un gouvernement pour faire un budget. À l'Espagne, là, en France, on fait un budget pour 2017. Il y a un projet de loi de finances, c'est-à-dire qui d'ailleurs donne lieu à des péripéties parlementaires qui mériteraient d'être commentées. Eh bien, en Espagne, on ne peut pas le faire. Donc, le budget 2017, ce sera le budget 2016, puisqu'on ne peut gérer que les affaires courantes. Ça veut dire ça. La vie politique, ce n'est pas les affaires courantes.
Si ça pouvait être en France.
Oui, non, mais ça n'est pas que les affaires courantes. Et donc, l'Espagne n'a pas de budget pour 2017. Alors, on peut dire, bon, on ne va pas les emmerder aujourd'hui avec des questions de déficit. Oui, enfin, ce n'est pas complètement accessoire. Je vous rappelle qu'en 2011, au fort de la crise de la zone euro, qu'est-ce qui a déclenché un changement de pied de la politique européenne? C'est que la menace se portait sur l'Espagne. Et que l'Espagne, c'était trop gros pour que l'incendie puisse être éteint avec le fonds de résolution qu'on avait mis en place. L'Espagne, c'est un gros morceau en Europe. Si l'Espagne dérape, alors là, la zone euro peut avoir de graves difficultés. Donc, ce n'est pas complètement accessoire. Donc, on en vient à ce paradoxe inouï de dire à Madrid, depuis Bruxelles, s'il vous plaît, dépêchez-vous, on a besoin que vous fassiez un budget, on a très vite besoin d'un gouvernement pour que vous puissiez vous couper un bras tout de suite de 5 milliards et demi d'euros, parce que c'est à peu près ce qui va manquer pour rejoindre le dogme des 3%, qui est vraiment, là pour le coup, un dogme fatigant et un peu stupide. Bon, donc on est dans une situation vraiment, mais absurde et tragiquement absurde. Alors, un mot quand même sur la question que pose François, qui est une bonne question. Est-ce que c'est spécifique? Il y a bien sûr une idiosyncrasie espagnole. Moi, je dirais pas que Podemos est un populisme au sens où on peut dire que UKIP est un populisme, que le Flams Belang est un populisme, que l'AFD en Allemagne est un populisme.
BP Grillo,
etc. Podemos, c'est un peu autre chose. C'est une gauche radicale, assez traditionnelle dans ses positionnements. Et je dirais même que la gestion d'Iglesias de la période montre combien il a été formé à une école traditionnelle et classique de la politique radicale à gauche. Donc, c'est pas tellement ça. Par contre, il y a quelque chose qui n'est pas spécifique à l'Espagne, c'est la crise des partis sociaux-démocrates. Le PSOE est un parti social-démocrate classique, finalement. Il a beaucoup participé à la transition démocratique. C'est un vrai parti démocrate. Ils n'étaient pas si nombreux dans l'Espagne d'il y a 20 ou 30 ans. Il a des positions en économie qui sont des positions social-démocrates, voire social-libérales. Donc, c'est un vrai parti social-démocrate. Et il est pris dans l'étau politique. S'il fait un pas à gauche, il sort de son identité, il renie tout ce qu'il a été. S'il fait un pas à droite, il sera accusé de traîtrise. Et donc, il n'y a pas de bon positionnement pour le PSOE. Si il fait un pas au centre, ce qu'il a fait avec Ciudadanos, à un moment donné, on lui fait payer très très cher sur sa gauche, et vice-versa. Le Parti Socialiste Français est dans une position assez analogue, la clarté idéologique en moins. Voilà. Et ça, c'est pas du tout spécifique à l'Espagne. Je pense que la social-démocratie est face à une difficulté partout en Europe, et que c'est pour ça qu'elle recule.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, je crois que sur la crise, on est à peu près d'accord. Il y a une crise générale. Je crois que François Bugeaud-Lettran a tout à fait raison de le dire. Une crise générale de toutes les gauches et même de toutes les droites en Europe, et une crise générale de la social-démocratie. Les modalités particulières de la contestation sont chaque fois singulières, chaque fois différentes. Ce n'est pas la même chose en Allemagne avec Alliance, qu'en Angleterre avec Corbyn et puis le Farage, qu'en Italie avec Pepe Grillo. Et nous, on a le Front National et Mélenchon. Ben, chaque fois, c'est totalement différent. Mais la crise est commune. Et alors, dans le cas d'Espagne, ce que je voudrais dire, qui me paraît fondamental, c'est que c'est quelque chose qui me paraît fondamental pour le Parti Socialiste, pas ce que je dis, mais c'est que je crois que le Parti Socialiste est en train de vivre quelque chose de très grave, qui est la remise en cause du triptyque sur lequel s'est construit à la fois sa réinsertion dans le jeu politique espagnol et la réinsertion de l'Espagne dans le jeu démocratique. Ce triptyque, M. Lapalisse dirait qu'il est fait de trois choses. Et d'abord, l'état de droit et la démocratie. Et là, bon, là, on peut dire qu'il n'est pas vraiment contesté par Podemos, même si Podemos a des petites tendances à l'action directe. Mais les deux autres aspects,
c'est-à-dire le respect des autonomies politiques, la Catalogne, l'Andalousie, le Pays Basque, mais pas de l'indépendance. C'est le second aspect du et troisièmement, l'intégration européenne dans sa forme qui était quand même l'évangile de Felipe González. Ces trois éléments-là sont profondément en crise. Et là, ce que vit le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol actuellement, c'est pas quelque chose de négligeable, même si c'est des querelles de personnes, etc. C'est, il y en a une grande partie, à commencer par Felipe, qui disent, nous devons être fidèles à notre pacte fondateur, nous nous sommes refondés comme parti sur ces trois bases, donc nous devons soutenir une solution constitutionnelle espagnole qui passe par l'abstention, et les autres qui disent nous devons être fidèles à notre enracinement à gauche, et donc nous devons faire une alliance privilégiée avec Podemos, au risque de manquer à nos engagements européens de façon substantielle, pas seulement les 3%, et surtout au risque de provoquer une crise de l'unité espagnole.
Je vous remercie, l'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que j'ouvrirai en disant que j'ai eu la chance de voir Vania, d'après Oncle Vania de Tchekhov, au Théâtre du Vieux Colombier. C'est une des plus belles soirées théâtrales que j'ai passées, et je voudrais simplement, pour ne pas frustrer les personnes qui ne pourront pas la voir, soit parce que c'est plein, soit parce qu'ils ne sont pas à Paris, mais dire que il me semble qu'il est en train de se passer quelque chose. C'est Julie Deliquet qui a fait à la fois cette adaptation et cette mise en scène. Il est en train de se passer quelque chose chez les metteurs en scène qui cherchent le renouvellement dans les textes et dans la connaissance intime des auteurs. J'ai trouvé ça, pour rester dans la comédie française, avec le Roméo et Juliette mis en scène par Eric Ruff et avec le Misanthrope mis en scène par Clément Hervieux-Léger. Je trouve ça vraiment extrêmement réjouissant et très fort. Et puis alors, je suis sûr que parmi nos auditeurs, il y en a un et sans doute même plusieurs qui rencontrent fréquemment le pape François. Et j'aimerais que celui-là ou cela demande au pape s'il a lu la biographie de saint François d'Assise par Chesterton. On me l'a offerte il y a peu de temps. J'ai commencé à l'ouvrir dans le métro qui me ramenait chez moi. Je ne l'ai pas quitté. Chesterton est ce formidable personnage qui a écrit ce magnifique roman qui s'appelle Le nommé jeudi, qui a d'ailleurs, dont l'adaptation a été rediffusée dans les Nuits de France Culture il n'y a pas très longtemps. Mais l'intelligence, enfin d'abord, on découvre, moi en tout cas, j'ai découvert de François d'Assise une vérité que je ne connaissais absolument pas. Et j'aimerais, pas seulement par curiosité, parce que si le pape ne l'a pas reçu, je me permettrais de lui faire cadeau pour son anniversaire, ou même d'ailleurs sans attendre son anniversaire. Et s'il l'a lu, j'aimerais savoir si ça a joué dans l'attachement qu'il a à ce saint homme de François d'Assise, qui est tout sauf ce que cette espèce de personnage nigaud qui parle à des oiseaux qui ne lui répondent pas, qu'on nous a présenté comme une espèce de...
Le ravi de la crèche.
Oui, le ravi de la crèche, à peu près. Un mélange de ravi de la crèche et de type qui sort de l'île de Wight. Michaela Wiegel.
Oui, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Du coup, je vais continuer avec Max Weber, dont je voulais signaler...
C'est moins allant.
En voilà un qui parlait pas aux oiseaux.
Ouais, il parlait pas aux oiseaux.
Et les oiseaux lui parlaient pas non plus, d'ailleurs.
Signaler une nouvelle biographie en français qui s'appelle Une vie entre les époques. Max Weber, Une vie entre les époques, écrit par Jürgen Kauber. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est justement qu'on voit à quel point l'Allemagne, ceux qui gouvernent l'Allemagne sont toujours inspirés en quelque sorte par la pensée weberienne, et je trouve l'auteur arrive bien à montrer en même temps comment, et le sous-titre l'indique bien, comment Max Weber a quand même quitter une époque et à toute son originalité, c'était de prévoir une autre époque, et comme on se trouve aussi un peu une époque charnière, je trouve ça vaut le coup de s'intéresser à Max Weber.
François Bujon.
Moi, je change complètement à la fois de genre et de sujet pour inviter ceux de nos auditeurs qui ne l'ont pas encore visité et qui le peuvent à voir l'exposition intitulée « Spectaculaire Second Empire » au musée d'Orsay. Parce qu'elle est fort belle, parce qu'elle est fort intéressante, parce qu'elle montre le Second Empire sous beaucoup de ses facettes qu'on ne présente pas toujours, et parce qu'au fond elle constitue une espèce de réhabilitation de cette époque que l'on a tendance à jeter assez rapidement comme une époque de démesure. Elle montre très bien à la fois l'architecture, les avancées en architecture, les avancées dans le domaine des arts décoratifs, où d'ailleurs le kitsch n'est pas absent. On le voit très bien dans la dernière salle à propos des expositions universelles. Mais elle constitue en soi un magnifique panorama d'une époque qui a été une époque d'extraordinaire développement économique en France et développement social. Et ça s'inscrit dans une espèce de réhabilitation du Second Empire et de Napoléon III, auquel un certain nombre d'historiens, je pense à Éric Anceau en particulier, auteur chez Talandier d'une excellente biographie de Napoléon III, ont contribué au cours de ces dernières années.
Et la Fabrique de l'Histoire a consacré en écho à cette exposition une série d'émissions qu'on peut réécouter en podcast. Thierry Pêche.
Si l'actualité vous déprime, et si, comme à moi,
le Second Empire vous paraît loin,
la vie politique vous fait mal à la tête, vous avez le choix entre le Doliprane que vantait tout à l'heure Philippe.
Il faut que je dise une autre marque, sinon le CSA va me
l'Alka-Seltzer, ou je vais vous proposer une autre marque, la musique. Je vous recommande vraiment vivement l'interprétation de Murray Peraya des suites françaises de Bach chez Deutsche Grammophon. C'est absolument magnifique, c'est chantant, c'est réfléchi, c'est assez puissant dans les moments où il faut l'être. C'est vraiment une très très belle interprétation et ça vous lave le cerveau de beaucoup de saloperies, j'allais dire, qu'on entend ces temps-ci.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, la brève de Philippe Meillard me fait quand même penser à une plaisanterie sur le... Vous savez, les plaisanteries qu'on faisait quand on était gosse sur le comble. Quel est le comble du jardinier, etc. Bon. Et là, quel est le comble du jésuite? Je vais vous dire, Philippe, le comble d'un jésuite, c'est de se faire passer pour un franciscain.
J'ai oublié de dire, votre remarque me fait penser que j'ai oublié de dire quel était l'éditeur de cette biographie de François par Chesterton. C'est Le Bruit du Temps.
Mais je vous trouve sévère avec le pape François derrière cette allusion.
Ah non, moi je suis pas du tout sévère. J'ai une admiration sans borne pour la Compagnie de Jésus et une admiration éperdue pour saint François d'Assise. Donc je trouve que la réconciliation des deux dans une personnalité aussi forte mérite la révérence. Maintenant, ce que je voudrais simplement recommander le livre de Jean-Marc Daniel, « Trois controverses de la pensée économique, travail, dette, capital », paru chez Odile Jacob. Alors, Jean-Marc Daniel, on le connaît, c'est le libéral flamboyant. C'est un formidable économiste de dirige sociétal, il fait un tas de choses, il est dans toutes les radios, etc. Et il anime un combat libéral avec beaucoup de talent. Et là, on le voit, par exemple, il aborde donc trois questions. La question, est-ce que la technique détruit l'emploi? Est-ce que il y a des bonnes et des mauvaises dettes? Et est-ce que la rémunération du capital et du travail est satisfaisante ou pas? Donc, les trois grandes controverses actuelles. Alors, il en profite en tant que libéral. Il règle ses comptes avec une allègre gentillesse et férocité à la fois avec Keynes. Mais surtout, et c'est ça que je voudrais signaler, c'est comme me le faisait remarquer Thierry, d'ailleurs, c'est un économiste très cultivé. Et c'est un économiste, notamment, qui a un grand sens, une grande culture historique. Et par exemple, sur la technique détruit l'emploi, eh bien, on s'aperçoit que le premier à avoir entonné cet hymne en disant qu'il faut se méfier de la technologie, c'est l'empereur romain Vespasien qui se gardait bien d'avoir des entrepreneurs trop efficaces parce que ça détruisait l'emploi. Et il montre qu'avant les théoriciens actuels de la Gordon, etc., sur la destruction par le numérique de l'emploi, eh bien, on a une haute personnalité qui est Lord Byron qui avait pris la défense des ouvriers textiles menacés par le machinisme.
Vous remercie. Vous avez maintenant rendez-vous avec Alain Krugère pour On ne parle pas la bouche pleine. Il est question de l'ail avec une femme de lettres, Liliane Giraudon, qui a signé L'histoire d'ail avec Xavier Girard. C'était L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer réalisée par Luc Jean Reynaud, préparée avec Augustin Bernard Roudex et Mathieu Farizier, avec aujourd'hui à la technique Olivier Dupré. J'espère vous retrouver la semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne pour une nouvelle édition de L'Esprit public.